Bonjour, donc c'est Symbiose, désolé pour ce démarrage un peu difficile. Donc aujourd'hui on reçoit des personnes de Ramalax Productions, c'est ça, ou en tout cas des gens qui font du cinéma libre. Et aujourd'hui aussi on a normalement un invité par un cerf téléphonique. C'est la technique sur laquelle on s'était cassé les dents il y a deux émissions. Donc cette fois on va vaincre la technique normalement. Donc du cinéma libre, on va en parler un peu plus dans le détail. Donc on a avec nous Enguerrand
De Rat,
ouais, pour pas écorcher ton prénom, et Joseph Paris, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, et donc par téléphone, on a donc Didier Guillon Cotard qui doit nous rejoindre normalement, et qui est à Lyon, si ça marche.
Et qui est le porte-parole de la plateforme Dogmatic.
Voilà, car cinéma libre, musique libre également dans le film.
Oui, et en fait, musique libre a démarré un peu avant, notre activité.
Ok. Bah, je vous propose de commencer directement à parler déjà de votre projet, du cinéma libre, etc. En quoi ça consiste, pourquoi du cinéma libre et à quoi ça arrive même.
Ok, alors, par où on commence?
Déjà, vous pouvez peut-être commencer par vous présenter un petit peu plus dans le détail sur, donnez vos noms, mais sur ce que vous faites dans le projet, et puis après ça, on enchaîne sur ce que
vous amenez à faire ça. Que pour schématiser, nous, on avait l'envie de produire des films et de les distribuer, et que, étant donné nos moyens, nos âges, etc., on a fait le choix de les distribuer gratuitement sur Internet, contrairement aux grosses industries qui se battent contre ça. Nous, on s'est dit que, au contraire, ça pouvait servir de force. C'était une force pour les artistes d'être distribués librement sur Internet, puisque par exemple, pour l'exemple, notre premier film, on l'a tourné avec 200 euros. Et on l'a mis sur Internet en pensant que récolter, taper sur les 2000 téléchargements, on en a eu 20 000, donc c'était enthousiasmant. Et à la suite de quoi, on a monté donc Ralamax Prod, qui est donc une structure de production et distribution de films libres. Et maintenant, on ambitionne de faire des projets un peu plus volumineux, disons, mais toujours sur le même principe de la distribution légale et gratuite sur Internet.
D'accord. Et en fait, moi, je suis arrivé en novembre dernier à Ralamax Prod.
Donc Enguerrand.
Enguerrand, oui, ouais. C'est ça. Et en fait, j'ai suivi quelques formations dans l'audiovisuel, la télé, le cinéma, etc. quoi. Et j'ai vu qu'à Ralamax, il y avait de l'ambition, il y avait de grands projets, et j'ai voulu y participer, quoi, et apporter une autre dimension. Une autre dimension avec de la vraie prod, etc. Des films professionnels.
D'accord. En fait. Donc tout à l'heure, Joseph, tu disais, vu notre âge, que, comme je suis seul à vous voir, vous êtes intolérablement jeune quand même. C'est...
Oui, on est jeune, mais je pense pas que ce soit une tare.
Non, puis bon, ça vous passera, je veux dire.
Non, c'est sûr que dans le milieu du cinéma, de manière générale, quand on s'adresse à un producteur ou au CNC ou même à la mairie de Paris pour avoir une subvention, on nous regarde en rigolant doucement.
Ouais. Voilà. Non, c'est un problème de...
Parce que, ah oui, ouais. Vous allez faire un court-métrage, ah, il sera diffusé dans votre lycée, c'est sympa. Alors que, bon...
Mais donc, vous avez cette arrogance de pas vouloir attendre d'avoir passé 30 ans pour faire des films.
Bah, ça serait con, vu qu'on en fait déjà tout de suite. Alors, est-ce qu'il faut attendre 30 ans pour diffuser les films qu'on a fait 20 ans ou...
D'accord.
Ouais, en plus, on a un concept qui est pas, qui fait partie quand même de notre génération, et je pense que.
Oui.
On a l'âge, en fait, du concept aussi.
D'accord.
Enfin, on fait partie des internautes, de la génération d'internautes qui téléchargent sans se poser la moindre question sur les conséquences que ça engendre, ou que certains prétendent que ça engendre sur le droit d'auteur et sur l'économie, etc. Et du coup, je pense qu'il fallait que ce soit des gens de notre génération qui proposent ce projet-là, parce que c'est à notre génération qu'il appartient, quoi, le fait d'utiliser les nouvelles technologies, Internet et tout ça pour concevoir la culture un peu autrement. Quoi.
D'accord. Alors, on a Didier qui est parmi nous, téléphoniquement. Alors, je ne sais pas si on peut l'entendre en régie, j'espère.
Est-ce qu'on m'entend ?
Ouais. Oui, bon, bah, Didier, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour à tout le monde. Ben, moi, je suis le représentant de la plateforme dogmasique.net. Là, je suis basé à Lyon. L'asso est originaire de Bordeaux. En fait, on veut essayer de disséminer en fait tout ce qui est culture libre en dehors d'Internet, puisque en fait tout ça c'est pas lié qu'à Internet en définitive. La culture libre c'est une époque et une cyberculture qui est à part entière, quoi. C'est pas que lié à Internet. Donc on veut essayer de faire des choses localement. Donc ça passe d'abord par de l'information, essayer de dire autrement les choses, c'est-à-dire que on se bat un petit peu. Par exemple, hier soir, j'étais à un festival de musique un peu gros sur Lyon. On a passé notre soirée à essayer d'expliquer que la musique c'était pas forcément illégal de télécharger. Donc on se bat un peu là-dessus et on va un petit peu en amont du web, c'est-à-dire on va auprès des gens qui n'ont pas trop cette culture d'Internet.
D'accord. Et par rapport au film, donc tu interviens à quel niveau ?
Alors, déjà, Ralamax, ben, je les ai connus il y a 2 ans. D'ailleurs, je salue Joseph, mon ami Joseph, qui est parmi vous. Je les ai rencontrés il y a 2 ans parce que déjà, ils avaient utilisé un morceau de Delgarma pour mettre dans le premier film qui s'appelle Le Bal des Innocents, dont il a parlé tout à l'heure. Et on a décidé un peu de voir ensemble ce qu'on pouvait faire. Donc comme je m'occupe aussi de Dogmasique, ben on s'épaule un petit peu. Donc moi, qu'est-ce que je fais avec Ralamax? Alors ça dépend quelle casquette je prends. Si je suis côté Delgarma, enfin on va dire du côté artistique, démarche artistique et créative, eh bien je participe, là je le fais pas encore trop parce que je termine le 2e album de Delgarma, donc je peux pas tout faire, mais sur Varsovie Express, on va essayer de contribuer sur les musiques, comme le font plein d'internautes. Et puis après, au niveau de Dogmasique, eh bien moi je m'efforce depuis 2 ans à essayer de tisser un lien d'amitié, de travail avec Ralamax. C'est vrai que c'est des gens qui ont 20 ans, mais qui ont vraiment la tête sur les épaules et qui sont très pertinents. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on s'épaule. Alors ça peut être des infos. Là, on essaie de travailler à faire un festival l'année prochaine sur Lyon ensemble. Voilà, un petit peu.
D'accord. Donc Enguerrand et Joseph, au niveau de... Enfin, qu'est-ce qui vous a fait venir au libre? Parce que le téléchargement, c'est une chose. Enfin, tout le monde télécharge. Les licences libres, etc., c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très connu. Donc, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était quelque chose de votre génération. Bon, les licences libres, c'est quelque chose de quand même plus ancien. Enfin, je connais dans le logiciel des gens qui sont là-dedans depuis 10 ans.
Oui, c'est un peu la nôtre aussi. Hein. Ouais. À Dogmasique, on a tous la trentaine d'années, hein, 30-40 ans. Il y a différents projets, ça. C'est vrai que...
Donc, déjà, est-ce que...
Par exemple, les gens de Boxon, ils sont beaucoup plus jeunes.
Oui. Au niveau cinéma, enfin dans votre démarche, est-ce que vous avez commencé par essayer de travailler dans des circuits plus conventionnels avant de chercher une option et une voie alternative, ou est-ce que ça s'est imposé naturellement?
Bah, je sais pas, puisqu'on n'a pas exactement le même parcours du coup.
Oui, mais je suis intervenu beaucoup plus tard en fait, au niveau du livre.
D'accord. Donc toi, tu as travaillé dans le cinéma. Sur des circuits plus conventionnels avant ou à la
Oui, j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et à 20 ans, on a plutôt le rôle de stagiaire ou d'assistant, quoi. Mais c'est clair qu'avec un concept et quelque chose qui appuie derrière, c'est d'autant plus facile.
D'accord, donc toi, Joseph
Moi, en fait, j'ai fait un film dont parlait Didier, Le Bal des Innocents. Et mon idée, c'était de le distribuer gratuitement sur Internet. Après, je connaissais les licences libres dans le cadre du logiciel, parce que j'étais programmeur en métier alimentaire. mais du coup, j'ai cherché s'il y avait une licence que j'aurais pu appliquer sur un produit culturel pour donner un cadre quand même à la distribution de mon film sur Internet, que ce soit pas non plus du domaine public, quoi. Et je suis tombé sur la licence Art Libre et les licences Creative Commons. Et donc j'ai vu qu'il y avait ce truc qui était quand même bien installé. Enfin, la licence Art Libre, je la trouve particulièrement réfléchie, et pas seulement sur le plan juridique, mais aussi sur la philosophie qu'elle transporte. Et les licences Creative Commons, elles ont ça de fort, c'est que elles permettent de moduler suivant l'utilisation que tu veux permettre de ton œuvre. Par exemple, est-ce que tu veux autoriser l'utilisation commerciale ou non de ton œuvre? Est-ce que tu veux qu'on autorise la modification? Si oui, dans quel cadre, etc. Et du coup, au-delà de la distribution sur Internet, les licences libres, elles permettent notamment de permettre aux internautes de faire des dérivations du film en question, quoi. Par exemple, Varsovie Express, le film dont on va parler tout à l'heure, il sera sous une licence Creative Commons qui autorise les internautes à monter leur propre version du film, à distribuer sur leur site, à condition qu'ils respectent la même licence que la nôtre, quoi, qu'ils soient distribués sous la même licence, donc sous une licence libre, et ce qui empêche les personnes d'en face d'en faire une utilisation dite propriétaire, quoi, c'est-à-dire brevetée, quoi.
D'accord. Dans le domaine où tu voulais
dire. Ouais. Okay. Je voulais dire que au-delà aussi du téléchargement légal et gratuit sur Internet, ce qui m'intéressait aussi surtout point de vue éthique, en fait, c'est en fait la traçabilité et la visibilité des artistes, en fait, dans la licence libre. Parce que en fait, dans les circuits conventionnels, que ce soit toutes les œuvres d'art, on regarde une publicité, il y a une musique derrière. Si vous voulez savoir la personne qui a composé la musique, c'est très difficile, en fait. Mmh. Et en fait, la licence libre permet aussi de tracer les artistes, et du coup de s'y reporter plus facilement. Et avec la libre distribution sur Internet, on les a d'autant plus facilement aussi, quoi.
D'accord, donc il y a un respect plus important des différents artistes qui interviennent.
Ouais, et puis ça fait valoir les musiciens qui sont sur la BO d'un film, quoi, par exemple.
D'accord. Didier voulait dire quelque chose,
pardon.
Oui, excusez-moi, c'est juste pour dire qu'en fait le lien il est beaucoup plus direct, parce que c'est le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, vous n'avez pas de structure de production souvent, puisque c'est autoproduit, vous n'avez pas de distributeur, de manager, de choses comme ça. Alors je parle vraiment pour la diffusion de l'œuvre. Après, pour faire des concerts, on a toujours besoin de gens, d'être entouré de gens pour nous aider à le faire. Mais pour la diffusion, oui, c'est vraiment très direct. Donc du coup, l'audionaute qui arrive et qui télécharge une musique ou une œuvre, quelle qu'elle soit, eh bien, en fait, elle est directement en lien avec l'artiste, quoi. Et donc du coup, il y a une identité à ce qu'on écoute qui est beaucoup plus proche. Voilà.
D'accord.
Alors si on regarde, par exemple, des musiques faites par des majors avec des grosses stars et tout ça, il y a tellement une équipe derrière, des choses absolument hallucinantes qui se greffent tout autour de l'artiste et du produit qui l'a fait. J'appelle ça un produit, pas un disque. Qu'en définitive, ça dénature complètement le lien qu'il peut avoir entre simplement un artiste qui s'exprime et un audionaute qui écoute quelque chose et qui a une émotion et qui est réceptive à celle-là, quoi. C'est deux chemins qui sont complètement différents. Et Internet, d'une certaine manière, remet un peu à l'endroit ce que peut vraiment être le vrai partage, la vraie connexion qu'il peut avoir entre quelqu'un qui diffuse sa musique et ce qu'il a au fond des tripes, et celle qui l'aperçoit et qui l'interprète à sa manière.
D'accord. C'est effectivement quelque chose qui, moi, m'a toujours semblé très intéressant, hein, notamment par... on voit ça par rapport à la musique, mais l'idée, c'est pas d'avoir de filtre et d'avoir une relation plus directe, parce que finalement, on a plein de projets qui sont d'abord des projets marketing avant d'être des projets artistiques.
Ouais. Et... En plus, il y a un truc, c'est que souvent, on dit, telle tendance est morte, ou telle tendance, ou ça, on n'est jamais au courant, ou... En fait, il y a aussi beaucoup de carcans qui sont mis dans les médias majeurs, comme la télé, et puis il y a des censures qui sont faites. Donc, ce qui est bien sur Internet, que ce soit dans le film ou dans la musique, c'est qu'à peine il y a un événement, quand les élections ont donné le résultat qu'elles ont donné, je peux vous dire que le lendemain, il y avait déjà des milliers de choses sur Internet, de gens qui étaient dans leur piole et qui sont exprimés, et qui ont lâché leur haine ou quelques-uns leur joie, je sais pas, mais en tout cas c'est direct, quoi. Et si on veut entendre vraiment ce qui se fait dans les pioles et bon, eh bien, il faut aller sur Internet, quoi. Faut pas écouter.
Mais justement, alors, je dérive un petit peu, mais le sujet me paraît intéressant. J'avais lu il y a quelque temps une tribune, j'ai pas pris de note avec moi, donc je pourrais pas le citer sur l'instant, mais d'un écrivain qui est intellectuel, philosophe, qui fustigeait justement ce qu'il appelait cette culture de l'amateurisme, en disant que finalement le vrai travail des vrais artistes et des vrais auteurs et des vrais intellectuels était noyé sous un flot de contenu totalement médiocre, ouais, etc. Et
lui, il avait fait un contrat avec une major, hein, pour faire ça.
Oui, il a dû recevoir un chèque. Non, mais c'est sûr, hein, et c'est sûr que quand... alors, Ralamax, ils sont sur des choses beaucoup plus denses avec le cinéma, et ça demande beaucoup plus de financement dans une production de cinéma que dans la musique. Donc, dans la musique, aujourd'hui, on a déjà énormément de contenu. C'est-à-dire, quand vous avez une plateforme avec 15 000 titres, et que vous entendez des productions avec des groupes absolument géniaux qui vous font des albums à vous faire sauter au plafond, bah c'est sûr que Virgin et les autres, ben ils ont un peu les boules, parce que le temps que les audionautes passent sur notre plateforme, c'est autant de temps qu'ils passent pas à acheter leur fichier DRM.
L'incertitude, c'est toujours super mauvais pour le business, hein, et je pense que c'est le...
Ben voilà, je pense que un truc qu'il faut retenir quand même de cette histoire, c'est que Internet et cette culture-là, de manière générale, et particulièrement dans la musique, elle permet à n'importe qui d'accéder à des goûts minoritaires. Si vous voulez, dans le box-office, vous n'avez pas les goûts minoritaires. Vous avez 20 clips de R&B, 20 clips de R&B français et 10 clips de je ne sais pas quoi. Et là, il y a vraiment une pluralité de choix qui est assez impressionnante, et du coup même un artiste qui fait un truc vraiment très typique, il sera peut-être écouté par peu d'internautes, mais bref, l'ensemble des musiques constitue un catalogue de choix qui exclut aucun goût, quoi. Si vous voulez, vous avez tout, et c'est peut-être ça qui fait peur aux majors.
Pour l'audionaute, Joseph, moi je crois que c'est super pour l'audionaute, mais c'est vrai que pour les ceux qui pensent qu'au business, leur but, c'est de créer un tube et puis de rentrer le titre ou le film ou ce que tu veux dans la tête, et pour qu'en fait, ça s'inscrive dans l'inconscient collectif et que les gens, pendant 20 ans, ils chantent... aujourd'hui, il y en a qui vont encore chanter du Goldman parce qu'on nous a mis ça dans la tête quand on était ptio, quoi. Donc, derrière, c'est « je te vends des DVD »,« je te passe en nostalgie ». Ils peuvent faire quelque chose. Quand tu arrives sur une culture qui est aussi vaste que tout ce qu'il peut avoir sur Internet, ben chacun se fait son petit environnement musical qu'on chantonne tous les jours sous sa douche ou dans la rue. On a moins de choses qui nous lient. Et le but des professionnels, c'est vraiment parce qu'on a besoin de s'identifier. On a besoin de s'identifier entre nous. Donc ils vont vous mettre des musiques, et la culture, ça a toujours été ça, ça a toujours été le combat. De choses qui font qu'en sorte que les gens ils chantonnent tous la même chose, quoi. Donc derrière, ça génère des ventes, et c'est Internet, c'est pas du tout leur intérêt de laisser aller à ça, quoi. Mais sauf qu'ils peuvent rien faire.
D'accord, mais quand je regarde est-ce que par exemple vous chez Ralamax, vous définissez comme des amateurs ou comme des professionnels?
On tend à devenir professionnel, je dirais.
Parce que, on essaye de travailler en étant pro, mais on reste détendu.
Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Et je voulais ajouter quelque chose à propos des goûts minoritaires. C'est pour le cinéma, c'est exactement la même chose que pour la musique, en fait. Parce que je prends un exemple parmi d'autres qui a déjà été cité. Par exemple, le cinéma de Bollywood. Il y a je sais pas combien de millions d'Indiens aux États-Unis, et il n'y a aucun moyen pour eux, à part les petits magasins de location de films bollywoodiens, de voir leur cinéma. Comme ils ont un style bien à part quand même, et très particulier, et je pense que la licence libre, en fait, ça permettrait de franchir toutes ces barrières, et que toute personne dans le monde par le biais d'Internet ait accès à son cinéma, en fait. C'est de mettre ses origines.
Oui, c'est des choses qui, pendant le vote de la loi d'AFSI, quand il y a eu le retournement, vous avez proposé les licences globales, c'est quelque chose qui, moi, me semblait très très intéressant dans ce système.
qui était justement... Je suis absolument contre la licence globale.
D'accord. Alors, j'argumente un petit peu, si tu me permets. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pouvait télécharger ce qu'on voulait, donc il n'y avait pas de contrôle sur, sur ce qui était distribué, etc. Et avec une idée de rémunération au forfait, enfin en fonction de la part de téléchargement et ce genre de choses.
Oui, mais la licence, c'est vrai, mais... Ouais. Mais le problème de la licence globale, c'est que ça reproduit exactement le même schéma que l'SSM, par exemple. C'est que à l'SSM, vous avez 15 000 sociétaires et il y en a 1000 ou 2000 qui sont rémunérés sur combien, Didier, pour nous préciser.
Il y en a 100 000 et il y a 10 000 personnes qui touchent à peu près quelque chose et quelques milliers qui peuvent vraiment dire on gagne de l'argent, quoi.
Voilà, donc les marchés encore plus énormes. Et la licence globale, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre film, on a décidé de le distribuer gratuitement sur Internet d'office. On le met sur Internet. Par contre, les gens payent la licence globale. Ils vont télécharger notre film. Et l'argent qu'ils auront payé dans le forfait de la licence globale, il va retourner à la Warner Bros. Alors que c'est notre film qu'ils ont téléchargé.
C'est une question du nombre de téléchargements, après ça. C'est peut-être que l'avantage aussi d'Internet, c'est de pouvoir compter de façon beaucoup plus précise ce qui se télécharge et ce qui se télécharge pas.
Bah, je pense pas tellement, parce que finalement, si on a créé la licence globale, c'est justement parce qu'on peut pas quantifier et à cause des réseaux peer-to-peer et tout ça. Et donc,
de ce que j'avais lu à l'époque, certaines personnes disaient qu'on pouvait tout à fait faire des stats assez précises, plus précises que ce que fait la SACEM, qui est obligée de se déplacer à droite à gauche.
Moi, je suis sûr qu'il y a une possibilité d'avoir c'est ce qu'on appelle en fait une traçabilité. En fait, c'est un nom un peu barbare. C'est un nom qui est très utilisé dans l'industrie. Par exemple, quand vous faites des produits, vous essayez de savoir quelle est la vie du produit, par où c'est passé. Donc, ça s'appelle la traçabilité et c'est le principal problème qu'on a aujourd'hui sur les œuvres. La SACEM font des sondages pour savoir. Et donc, en définitive, ce que dit Joseph, c'est tout à fait vrai, c'est que vous avez beau avoir plein de gens qui utilisent votre œuvre, si elle rentre pas dans les sondages de la SACEM, vous ne toucherez jamais rien, quoi. Mmh. Alors que avec l'internet et les nouveaux outils qu'on appelle les TIC, en fait avec tout ça, on pourrait arriver vraiment à tracer les œuvres et puis à essayer de faire une sorte. Moi, je me suis dit tiens, ça serait bien qu'on fasse une plateforme. Ou vraiment mais une plateforme, un truc très très balèze, quoi, où en fait chaque artiste déposerait ses œuvres et puis en fait ça serait une super archive d'hébergement et puis quand les gens les utilisent ça notifierait à l'un et à l'autre, soit aux sociétés d'auteurs, soit à l'artiste, soit à celui qui utilise tout ce qui concerne l'utilisation de l'œuvre et puis si l'artiste veut que ça soit payant ou pas payant, enfin. Et ça serait complètement possible. Mais si vous voulez, toute la situation d'aujourd'hui fait que les sociétés d'auteurs fonctionnent sur un mode complètement désuet. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, quoi. Alors de là à faire changer leur statut, voire même certains articles du Code de la propriété intellectuelle, il y a du boulot à faire.
Mais entre la musique et le cinéma, en termes de diffusion, est-ce qu'il n'y a pas une différence ? C'est-à-dire que la musique, soit on va avoir un concert et donc on a l'artiste face à soi, soit on écoute un enregistrement chez soi ou enfin quelque part, en tout cas on écoute un enregistrement sur un... Ouais, s'il peut y avoir des diffusions publiques à la radio, etc. Mon argument est peut-être mauvais, mais je sais pas, enfin le cinéma, il y a quand même cette idée de la salle de cinéma qui est encore un circuit de distribution particulier et où nous voir un cinéma, un film au cinéma, c'est différent. Il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, comment vous voyez ça et de votre côté et puis bon, enfin, distribuer le film sur Internet, c'est bien, mais comment vous voyez dans le cadre du libre des moyens de faire de l'argent ou en tout cas de financer vos films, ce genre de choses.
Disons qu'en fait, nous, on n'écarte pas du tout la diffusion dans les salles sombres, quoi. Mmh. Parce que c'est quand même l'essence même du cinéma, c'est la base même, quoi. Donc, on l'écarte pas du tout. Et par exemple, pour Vassoy Express, on l'envisage grandement, quoi.
Et dans la seulement, ça va respecter la chronologie des médias. On va pas bousculer là-dessus pour le moment. Peut-être que ça pourra changer, mais la sortie sur Internet, elle intervient à peu près au moment de la sortie de la sortie DVD sur un film traditionnel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il sortira en salle, puis sur Internet. Mm-hmm. Et en DVD en même temps, ouais, comme sur Internet par ailleurs. Ouais.
Comme ça, en plus des revenus en salle, il y aura ensuite, par Internet, les revenus publicitaires.
Ouais. D'accord. Sur les licences que vous utilisez pour le film, donc il y a le droit à modification. Mm-hmm. Est-ce que vous avez le droit d'avoir une exploitation commerciale?
Ben, nous, sur nos films, bien sûr, mais les autres sortes de films, non.
D'accord, oui, c'est bien. Oui, donc il n'y a pas... Parce qu'enfin, dans les licences libres, dans le logiciel, et c'est souvent ce critère qui est très rarement repris dans le domaine des arts, qui est d'autoriser autrui à faire de l'argent avec son travail. Mm. Chose qui se fait très volontiers dans le logiciel libre avec les licences comme la GPL. Et qu'on a encore assez peu dans le domaine des arts.
Nous, ça dépend des films, hein, mais disons que les gros projets, on n'autorise pas l'utilisation commerciale pour une raison toute simple, hein, c'est que c'est quand même des artistes qui sont derrière ces œuvres-là et que nous-mêmes, de notre côté, on peine à les rémunérer en commençant aujourd'hui. Et que par exemple, le Bal 1900, il y a un logiciel de web télé, etc., qui est sorti, qui a fait plein de pubs, machin et tout. Il avait une liste de films en libre accès dans une catégorie du truc, quoi, avec plein de vieux films de tomber dans le domaine public, super vieux et tout, et un film récent, Le Bal 1900, avec de la pub, avant, pendant, après, machin, etc. Jackpot, gros business, et nous, rien, quoi.
D'accord.
Et eux respectaient pas la licence, justement, qui était NC, non commerciale, quoi. Donc, il a fallu leur dire qu'il y avait un problème, quoi. Soit ils retiraient la pub, et dans ce cas-là, ils pouvaient laisser le film, soit ils rémunéraient au prorata du nombre de visionnage, quoi, et...
C'est son
compte, et... Soit on trouve un autre arrangement.
Et ça, c'est celui des commandes.
Et il a retiré le film.
D'accord. Mais c'est vrai que dans le cadre du cinéma, et sans doute une moindre mesure de la musique, il y a cette idée d'être obligé d'investir autre chose que son temps personnel. C'est-à-dire qu'il faut déjà beaucoup de monde, il faut du matériel. Donc, c'est vrai que sur l'informatique, on a besoin d'un PC, il y a plein d'outils libres qu'on ne paye pas, et c'est du temps. Là, il y a quand même cette idée de matériel et de...
C'est pour ça qu'on est un tout petit peu plus obligé de compter le budget et de voir l'argent qu'on peut faire du film, quoi. Mais c'est, même si nous, dans l'idéal... qu'on a de l'art libre, on se dirait ouais, mais non, total free, on lâche tout, machin, etc. Mais bon,
il faut. Déjà, il y a de la modification, ce que je trouve, ce qui est assez rare, hein, ce que je trouve très intéressant. Est-ce que vous envisagez de donner l'équivalent des sources, c'est-à-dire, je sais pas moi, vos rushs, les fichiers de montage, ce genre de choses, donc vous donnez vraiment l'ensemble
Pas pour tous les films, mais pour le moment, mais Varsovie Express, ça va être. Ça va être typique de ça, quoi. C'est-à-dire que sur le site du film, il y a les artistes qui composent la BO, les affiches, etc. Donc il y a tous les brouillons qui sont déjà disponibles, quoi. Et progressivement, il y aura tous les trucs que nous, on aura fait, qu'on aura tourné et qu'on va rajouter dessus, etc. Bon,
d'accord. Didier, tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus?
Écoutez, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, cette façon de procéder, c'est sûr que dans le cinéma, on a déjà besoin de plus de financement et de budget. Donc, si pour le logiciel, on peut simplement investir du temps et ça fait le projet, et bien c'est bien. Dans la musique, c'est un peu entre deux. Il faut quand même payer le matos. Puis quand on se déplace sur des concerts, ça coûte de l'argent aussi. Mais si vous voulez, le cinéma, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Alors, c'est sûr qu'après livrer son œuvre comme ça, et puis... moi, je pense que, par exemple, le gars là, qui a utilisé la plateforme qui a utilisé le film du Bal des Innocents en mettant de la pub et tout ça. Donc, moi, je trouve ça complètement inconscient. Enfin... Je pense que si vraiment Ralamax voulait être méchant et tout ça, et qu'il voulait vraiment prendre les boules, il pourrait vraiment embêter ce monsieur. Mais moi, je trouve ça... Je ne savais pas. Tu m'en avais pas parlé, Joseph, de ce truc-là. Ça me fait sauter au plafond. Je ne comprends pas, quoi. Mais j'ai eu le même genre de choses aussi sur nos musiques. Hein. Mm-hmm. Mais si vous voulez, tout ça, en fait, tout ce qu'on parle là, c'est une nouvelle façon de faire de l'économie. Alors, et quand on dit économie, c'est pas dans le sens péjoratif du terme. L'économie, c'est une sorte de façon d'échanger des choses. Et je dirais que s'il y en a qui travaillent sur tout ce qui est agronomie, agriculture et tout ça, ben, les artistes commencent à se mettre à trouver des modes équitables, durables. Nous, on a un truc on a une gimmick là dans l'association Dogmasie qui dit non à la musique transgénique. Mais c'est vraiment ça, c'est trouver des nouveaux moyens de alors, limiter les intermédiaires, avoir que tout le monde s'y retrouve en fait. S'il y a un site qui se fait de l'argent, il y a beaucoup de débats dans cette communauté de gens qui sont autour de la culture libre, et des gens qui sont très extrêmes dans leur façon de penser, il faut que tout soit libéré, tout soit... C'est des gens qui sont souvent d'abord des informaticiens, parce qu'ils sont dans l'idée du code programme. Et puis il y a des gens qui sont très opportunistes aussi, qui utilisent nos plateformes et ces moyens juste pour se faire connaître. Et puis il y a des gens qui sont entre les deux, et qui se disent, bon bah voilà, je vais... Moi ça ne m'embête pas d'utiliser une licence non commerciale, alors qu'il y en a qui vont dire, oui, mais alors tu partages pas l'esprit du libre. Oui, enfin bon, c'est facile de dire ça, mais pour le travail de Ralamax, c'est pas eux qui prennent les gens qui disent ça, c'est pas eux qui prennent les risques financiers, c'est pas eux qui perdent le temps, c'est pas eux qui investissent dans le matériel, c'est pas eux qui déménagent de Lyon pour monter à Paris pour faire vivre le projet. C'est, non, mais voilà, il faut il y a un moment donné, je pense qu'il faut être. Voilà, ouais. Moi, je parle d'équité, d'équitable et la musique libre, la culture libre, c'est pas gratuit quoi.
Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une chose qu'en fait qui fait une grosse grosse différence par rapport à l'informatique, c'est que l'informatique libre, enfin déjà, s'est approprié Internet dès le début, et du coup, elle a son propre circuit de diffusion. Et c'est pas aujourd'hui le cas en musique ou en cinéma, où on est obligé de faire avec des circuits de diffusion qui existent déjà et qui sur lesquels il y a déjà des.
Oui, mais c'est un peu en avance aussi. Oui. Hein. Je veux dire, d'un côté aussi, le logiciel. Moi, encore hier soir sur le festival, quand les gens ils comprennent pas trop ce que c'est que la culture libre, le cinéma libre, la musique libre, parce que là je parlais beaucoup de musique d'abord, je leur dis, bah, est-ce que tu connais les logiciels libres et Linux? Ils vont dire, oui, je connais. Moi, je dis, bah voilà, c'est à peu près la même chose. L'idée, c'est de collaborer, de partager. Et bon, donc du coup, c'est vachement pratique pour nous, parce qu'ils ont été un peu en amont, et ils ont déjà développé tout ça. Donc, ils ont des réseaux, effectivement. En plus, c'est complètement dématérialisé à la base, leur programme, parce que leur programme, ils les font déjà sur un PC, quoi. Quand on fait de l'acoustique ou quand on fait du film comme Joseph et Enguerrand, bon, ben, il faut avoir un décor, il faut prendre ça avec une pellicule, retransmettre ça sur un PC. Ça fait pas. Voilà. C'est beaucoup plus simple pour des informaticiens.
Ouais. On parlait de décor, mais je crois que c'est Pitch, c'est ça qui s'appelle. C'est des gens de Blender, le logiciel libre de 3D, qui eux ont déjà fait un court-métrage, ils sont en train d'en faire un second.
Elephant Dreams.
Ouais. Elephant Dreams, oui. Et qui fonctionne avec. Ils pré-vendent des DVD.
Ouais. Ça marche pas mal parce que Blender, ils ont déjà construit un réseau gigantesque avec le logiciel. Mm-hmm. C'est-à-dire que le projet Blender, c'était un logiciel libre au départ qui est passé en propriétaire parce que les mecs n'avaient pas d'argent. Alors tout la communauté libre a gueulé en disant « Mais non, c'est scandaleux, vous nous mettez un truc libre et d'un coup vous le passez en propriétaire et tout. » Donc le mec de Blender a fait « Ok, je veux bien, je le remets en libre si vous m'apportez suffisamment d'argent pour qu'on puisse continuer à le développer. » Et du coup, il y a eu une énorme campagne de dons sur toute la planète qui a rapporté énormément d'argent, qui a sollicité plein de monde et qui a construit un réseau vraiment solide, quoi, pour relancer Blender en libre. Et il est toujours...
J'ai une interview quelque part sous le coup de quelqu'un qui fait du Blender en France. Mais bon, là, c'est vrai qu'ils ont encore cet avantage de faire de la 3D, donc ils ont matériellement, en fait, besoin de deux PC et encore une fois...
Oui, et puis surtout tout ce réseau-là de donateurs qui, maintenant, un film avec Blender, ok, vas-y, j'y vais, enfin, ils sont au courant, quoi. Nous, on débarque sur Internet quelque part, il faut se construire un réseau, hein, c'est comme partout.
D'accord.
Donc, c'est même nous, sur Dogmazic, ceux qui ont les œuvres qui ont été le plus déposées au départ, c'est d'abord des gens qui faisaient l'électronique. Hein, parce qu'il y a moins de fractures entre quelqu'un qui fait l'électronique et qui est sur un PC et Internet que des gens qui font de l'acoustique. Moi, je discute des fois avec des gens qui font de la chanson française. Bon, tu leur parles ordinateur, ils y comprennent rien, quoi. Enfin, et puis ils ont mon âge. Alors, c'est un peu... quand tu essaies de leur expliquer tout ça, tu leur dis, mais va sur Internet. Alors ils me disent, ah ouais, tu veux que j'aille sur MySpace? Non, pas du tout, c'est pas ça que je t'ai dit. Non, mais ils connaissent que ça, quoi. Ils connaissent rien, c'est dommage. C'est plus dur pour eux.
Okay.
Il y a une barrière, quoi.
On va écouter un morceau. Alors malheureusement, on va pas pouvoir écouter la musique de Didier parce que le CD passe pas. Ah. Donc, c'est le drame. Mais je te promets qu'on en repassera une prochaine fois. J'ai déjà passé des Karma.
On va sortir bientôt un prochain album, là.
D'accord. Eh bien, si tu veux, on fera une émission spéciale d'Algarma sur ton prochain album, pour me faire pardonner. Donc, on va passer de la musique propriétaire. C'est très mal, c'est la première fois. Je m'auto-flagellerai ce soir en rentrant à la maison. Et voilà, on se retrouve après.
Bien, Symbiose sur Radio Libertaire, on est de retour. Aujourd'hui, on parle cinéma avec Ralamax. C'est ça. Je ne suis pas trompé cette fois, et non pas Ramalax, qui fait du cinéma libre. Et on va parler un petit peu maintenant de la façon dont vous travaillez. Alors déjà, en termes d'organisation, vous êtes parti d'une association.
Ouais.
Mm-hmm. Alors déjà, je ne sais pas, vous êtes combien, comment vous êtes organisé, ce genre de choses?
Je saurais pas quantifier ça, mais il faut savoir que au-delà du réseau d'internautes, quoi, il y a tout un réseau de techniciens, de comédiens qui, comme on fait de la licence libre, il faut aussi les convaincre dans le domaine parce que il y a peu de techniciens cinéma image, quoi, qui font ce genre de choses, quoi. Donc il faut vraiment qu'ils soient aussi derrière nous, quoi. Donc
en chiffres, disons qu'on doit bosser avec 10 techniciens et il doit y avoir 40 comédiens avec qui on est en contact, quoi, évidemment, ils jouent pas tous dans le film. Mais...
D'accord, et sur la structure centrale, le noyau dur qui fait tourner tout ça, le côté, je sais pas, production, enfin je suis pas expert en...
Eh ben on est 3 ou 4, quoi, ouais. Ça dépend qui 3-4.
D'accord.
Oui. Et au-delà de ça, il y a aussi, au-delà de l'aspect artistique, il y a aussi tout ce qui est presse, internet, commercial, etc. Quoi.
Donc disons que Enguerrand et moi, on fait la prod et le... pardon. Excusez-moi. La direction globale du projet. Et qu'après, on a notre attaché de presse derrière la vitre. Et... et etc.
D'accord. Et vous travaillez, vous êtes tous sur Paris ou on sait déjà que Didier qui fait la musique à Lyon, mais est-ce que vous êtes éclaté géographiquement ou vous avez entendu parler d'un déménagement?
En fait, on vient d'emménager tous les deux sur Paris, en fait, un peu entre guillemets pour conquérir la capitale, quoi. Ouais. Parce que disons, on s'est rendu compte que c'était là qu'il y avait le maximum de personnes, quoi. Dans le cinéma, je sais pas, il devait y avoir 90% de la production qui se fait sur Paris, même si Lyon c'est quand même quelque chose d'émergent et tout, et on le renie pas du tout, quoi. Mais ouais, c'est ici quand même que se passent les choses, quoi. Et à Lyon, c'est vrai que tout le monde est resté là-bas, donc tous nos techniciens et acteurs, quoi, pour l'instant. Mais
nos locaux sont encore à Lyon d'ailleurs. Mais...
D'accord.
Mais par exemple, pour ce qui est de la production, nous on peut tout organiser ici et aller tourner là-bas dans la région Rhône-Alpes, quoi. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc,
Ok, donc vous travaillez avec des listes des discussions, des forums, des choses?
Non, on ne travaille pas vraiment sur Internet, en fait, pour ce qui est... Enfin, ce qu'on met... le travail qui se fait sur Internet, c'est le travail avec les artistes, quoi, mais le travail de production... Et
oui, ça, c'est vraiment... C'est ce qu'on met en interne, vous utilisez Internet aussi pour bosser...
Comme dans n'importe quelle boîte, des emails, mais pas plus que ça,
en fait.
Pas d'outils. Mais voilà, on est à Paris, parce que, par exemple, quand le CNC vous donne un rendez-vous, et souvent, il paraît qu'ils ont tendance à le donner du jour au lendemain, donc de débarquer de Lyon, réserver un hôtel, etc. Pour un rendez-vous, c'est cher. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on fait des économies de frais en déménageant à Paris. Et c'est dommage, mais bon. On n'aurait pas réussi à casser ça. Donc, enfin, tu vois, on a cassé le schéma de distribution traditionnel et tout ça. Mais
pas
le fait que ça se passe à Paris.
Oui. Et ben justement, parlons sous. Comment vous financez vos projets?
Pour le moment, on les auto-finance, c'est ce qu'on a fait, ceux qui sont déjà sur notre site. Et là, je sais que ça va déplaire à un certain nombre de gens, de vos auditeurs entre autres, mais c'est de la publicité qui va financer le Varsovie Express. C'est-à-dire, à la fois, on a un autre court-métrage aussi en projet avant ça, on va mettre des encarts publicitaires dedans, quoi. C'est-à-dire que vous aurez un parfum sur l'étagère de la salle de bain ou des trucs comme ça.
Le product placement.
Ouais, voilà. Ouais. Et après, il y a la publicité post-production, c'est-à-dire que quand le film est distribué sur Internet, il y aura un petit billboard publicitaire, un petit encart publicitaire à côté, et qui nous rémunère à l'affichage, quoi. Donc après, plus le film est téléchargé, plus
il rapporte.
Ouais, voilà. Et puis, de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, on n'exclut absolument pas la sortie en salle. Et je pense que ça, c'est pas négligeable, quoi, parce que il y a pas mal. Enfin, nous, c'est un gros budget par rapport aux productions qu'on avait, mais ça, c'est un petit budget par rapport.
Est-ce que tu peux donner quelques chiffres si ça te dérange pas?
Non, c'est mobile. Le premier film qu'on a fait, il a coûté 200 euros. Varsovie Express, le prochain long métrage, il tournera autour des 300 000 euros. Il faut savoir que le budget moyen d'un long métrage en France, c'est 1 million d'euros. Donc on est largement en dessous du budget moyen d'un film, quoi.
D'accord. Donc, 300 000 euros quand même. Enfin, il faut les sortir avant de toucher l'argent sur Internet.
C'est donc, ça. Il va falloir convaincre des mecs qu'il va y avoir un retour sur investissement.
D'accord. Voilà. Et donc là, vous faites la tournée des producteurs et ce genre de choses, ou des financiers. Il y a des financiers spécialistes dans le cinéma, je suppose, non?
Non, des financiers nouvelles technologies, Internet, quoi.
Ouais, plutôt.
Voilà, c'est, on leur propose un genre de... Enfin, ceux qui s'intéressent à l'actualité YouTube et compagnie, on essaye de les attraper.
Et ça marche, à peu près?
C'est bien parti.
C'est bien parti.
Ouais, cool. Ouais, on peut pas trop citer de noms, quoi.
Ouais. Mais...
c'est ce que c'est.
D'accord. Vous me disiez tout à l'heure qu'au niveau de l'organisation, vous allez changer. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes sur une structure associative.
Mmh. Ouais. Mais on est encore en association, quoi, la 1901, quoi. Mais on peut employer salariés, quoi.
D'accord. Et vous envisagez de changer de structure?
Oui, on envisage de se monter en société de production, quoi, mm-hmm. Réelle. Et il faut savoir que pour pouvoir produire un film, pour qu'il passe en salle, en fait, il faut, le CNC exige qu'il faut une enveloppe de quand même 45 000 euros dans le capital social, quoi. Donc 45 000 euros, c'est déjà une somme. Et après, il y a tout. Il faut. Ouais.
Donc c'est exclu d'être en dessous de la forme associative, d'avoir un capital de 45 000 euros.
Ouais.
Et du coup, forcément, ça va un peu changer. On essaiera de rester relax. Ouais, je veux dire, il y a des entreprises qui fonctionnent sous la forme d'entreprise. Donc, même en SA, c'est-à-dire le modèle le plus libéral qu'on connaisse, et qui trouve un mode de fonctionnement interne à peu près humain, quoi. Après.
D'accord. Aujourd'hui, cette activité vous prend en plein temps, ou c'est quelque chose que vous faites à côté d'une activité alimentaire?
Ah non, c'est complètement à plein temps, quoi.
C'est ça.
On peut pas faire autre chose, quoi. Je dirais même que parfois, je pense que vraiment. Je dirais pas qu'on a besoin de nous, mais je pense que c'est quand même indispensable ce qu'on fait, qu'on pourrait pas s'arrêter, quoi, maintenant.
Indispensable à quel niveau?
Je sais pas, la licence libre, je pense que c'est quand même l'avenir, en fait, du cinéma, ou de la musique, de l'art en général, en fait.
Moi, je pense que c'est super important parce que c'est une alternative.
Si.
Il y a des gens qui voudraient imposer, des fois, la culture libre pour balayer le reste, parce que je pense personnellement que c'est complètement idiot. Il y a un système qui est en place. Après, il y a une nouvelle génération qui essaie de trouver d'autres moyens de faire des projets artistiques. Ça en fait partie. Je pense, oui, que des projets comme celui de Ralamax ou même comme celui de Dokomazic, c'est pas moi qui l'ai fondé, donc je peux en parler comme ça, que c'est super important. C'est politiquement, c'est. Non, c'est super important de faire des choses comme ça.
Ouais, il faut se battre constamment, déjà une pour trouver les financements, financièrement, et ensuite juridiquement pour convaincre le CNC, la SACEM aussi, parce que la SACEM aussi, comme il y a de la musique dans le film, théoriquement ils prennent sur une place de cinéma 1,5% de la somme.
Pour le droit d'auteur?
Pour la SACEM.
D'accord.
sur le prix de la place de cinéma, ils prennent 1,5%. Théoriquement, là, ils ne devraient pas leur céder de l'argent. Donc ensuite, il faudra négocier avec les exploitants de salles où vont revenir ces 1,5% en fait, de la somme. Quoi.
Ou avec la SACEM, comme disait Didier l'autre jour, pour qu'ils soient reversés à nos artistes. Quoi.
Ouais, aussi. Ouais.
Qui ne sont pas signés SACEM.
Et toi, Didier, t'es à la SACEM ou a priori non?
Si. Moi, si je vais à la SACEM?
Oui.
Oh, bah, t'es fou, toi. Je vais pas mettre les menottes au point pendant 10 ans pour rien gagner.
Ouais.
Non, j'ai jamais été à la SACEM. Ouais. Quand j'étais très loin de tout ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont à la SACEM, qui sont artistes, plus ou moins vieux, ou quoi que ce soit, qui ont toujours fait de la musique. Et qui disent, ah, ça y est, je vais m'inscrire à la SACEM. Alors, ils vont s'inscrire à la SACEM. Et puis, en fait, ils n'ont pas compris que c'est pas leur morceau qu'ils inscrivent, c'est eux complètement. Ça veut dire que demain, s'ils veulent faire, je ne sais, n'importe quoi, enfin, quelque chose, quoi, ils font un texte ou quoi que ce soit, et ben, ils peuvent pas le mettre en licence libre, ils peuvent pas le gérer comme ils veulent, parce qu'ils ont signé pour 10 ans. Et en plus, et ben, comme c'est calculé sur des sondages, dans lesquels ils ne sont pas, mais ils ne toucheront jamais de redevance. Donc ça sert à rien d'aller à SACEM quand on n'est pas connu ou quand on démarre. Après, bon, c'est discutable. Pourquoi pas
enfin, oui, je sais quand on a fait l'émission sur les licences libres, sur la musique libre, pardon, il y avait cette idée hein, qui était dire, de certaines personnes qui étaient venues, qui était de dire, pour l'instant je suis sous licence libre parce que je ne suis pas connu, mais si une maison de disques m'approche et me propose un contrat, je crache pas dessus.
Bah, nous, on a eu des artistes comme ça, sur Dogmazic, qui ont fait ce chemin-là.
Oui.
D'un côté, c'est toujours pareil dans la vie, il faut comprendre. On peut comprendre et pas forcément cautionner. Moi, je peux comprendre que des groupes fassent ça. Gérer individuellement ses œuvres et personnellement ses œuvres, c'est aussi, c'est une recherche de liberté, quoi. Donc, c'est sûr que, c'est un peu plus compliqué quand ça commence à marcher. Faire des contrats, il faut déjà comprendre ce que c'est que le droit d'auteur et tout ça, et on y perd un peu ses cheveux, mais c'est à ce prix-là qu'on a sa liberté. Hein. Là, il y a un groupe qui s'appelle La Blanche, qui passe sur France Inter, qui était sur notre archive, ils en sont partis parce que leur producteur leur a dit « Ah, ça suffit vos conneries », parce que bien sûr, le producteur derrière, lui, il touche des droits voisins, donc ça l'intéresse pas du tout d'avoir des groupes... c'est des sortes de droits d'auteur aussi, et ils touchent de l'argent là-dessus, donc ça n'intéresse pas d'avoir des groupes en licence libre. Bon bref, le groupe il est parti de Dogmazic et il a signé pour 10 ans la SACEM. Mais j'espère que ça va marcher 10 ans leur musique, parce que si dans 2 ans ça marche plus, ils peuvent même plus diffuser leur musique sur internet. Donc c'est ça, il faut faire un peu attention aussi à ce qu'on fait quoi. Enfin bon,
okay. Et côté cinéma, donc vous, si ce que je souhaite, vos films marchent, etc., et que vous êtes démarché par les maisons de production, etc., ou des circuits beaucoup plus conventionnels, est-ce que ça vous sautez le pas, ou est-ce que vous avez une sorte de, comment dire, de foi inébranlable dans le libre?
c'est même pas une question de foi, je pense que c'est juste que si nos films marchent, c'est que l'économie qu'on a proposée, elle tient la route, et donc il n'y a pas de raison d'en sortir.
Ouais.
Voilà.
Mais le film peut marcher, mais vous pouvez avoir du mal à faire de l'argent. Enfin, par exemple, il est tout à fait légitime de vivre de son
boulot. Ça veut dire quoi, le film marche alors?
Il est téléchargé, regardé, etc.
S'il est téléchargé, on fait de l'argent, puisqu'il y a de la publicité au téléchargement.
Oui. Oui, si vous avez effectivement des annonceurs, oui.
Mais après, s'il y a enfin, nous, on n'exclut pas de faire des coprods, quoi. Mmh. Avec d'autres boîtes, mais seulement, ce sera sur la base du fait que c'est distribué sous licence libre derrière, quoi. Enfin, et puis même. Moi, je me vois mal annoncer aux gens qui téléchargent nos films, qui sont un peu habitués, etc. Ah bah, ça y est, on a fait un film, on va vous donner toute l'actualité du film. Alors, on en est là, on a fait le tournage, machin, on fait le montage, etc. Et puis à la fin, ah bah, mais non, on vous le montre pas. Non, je crois pas. En fait, ce serait... Non, mais... Enfin, je pense que là, tout ce qu'on fait, c'est vachement... C'est compliqué, parce qu'on bataille juridiquement, on bataille économiquement, enfin, financièrement, pour faire le chemin du cinéma libre, parce que personne ne l'a fait avant nous, quoi, pas le moment.
Oui, déjà, financer un film, c'est déjà super dur, enfin, c'est déjà un grand travail.
Ouais. Mais qui plus est un film libre, parce que c'est pas les mêmes rapports. Et donc le but de tout ça, c'est quand même d'ouvrir la voie à ce que d'autres enchaînent derrière, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une voie qui n'est pas acceptable aujourd'hui, c'est le prix de la place de cinéma. Et c'est la difficulté pour les gens de voir des choses variées. Et donc la voie que choisir à la Max était difficile. Il y a un petit peu d'utopie, mais il y a aussi beaucoup derrière d'idées. Et voilà, il faut y aller, quoi.
Oui, les utopies, c'est des choses qui se font vivre. Hein. Enfin, on parlait tout à l'heure du logiciel libre. Donc j'étais étudiant et une association qui s'appelle l'April, qui est aujourd'hui une grosse association, qui est une association qui était montée dans ma fac par des copains, etc. Et voilà, il y a 10 ans, on leur disait qu'ils étaient totalement utopistes et que c'était des rigolos. Aujourd'hui, le logiciel libre a une reconnaissance assez considérable. Donc voilà.
C'est un produit, c'est quoi là, ils ont été reconnus produit de l'humanité, je sais pas quoi, par l'UNESCO.
Le logiciel libre. Oui, le logiciel libre et patrimoine de l'humanité, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais il y a plein de signes comme ça. Il y a déjà le fait de gens qui s'intéressent par exemple au projet de Ralamax Prod, c'est pas anodin non plus. Le fait que dans les par exemple, je sais que dans les il y a des conseils supérieurs de la propriété littéraire et artistique qui commencent à parler de Dogmazic. Enfin, en tout cas de l'association Musique Libre, et qui nous audite pour savoir ce qu'on pense des nouvelles technologies et comment ça avance. Voilà, donc c'est il y a aussi des gens du logiciel libre qui sont intégrés à cette commission, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça évolue, hein. Ça évolue. Puis de toute façon, ils peuvent pas arrêter tout ça parce que c'est nous, on voit sur la plateforme, en 2 ans, on avait fait 10 millions de téléchargements. Là, en 7 mois, 8 mois, on en a fait 13. Donc, c'est exponentiel.
Oui.
Exponentiel. Les politiques sont forcément obligées de réagir. Cela, on parlait de problème de génération. Nous, on est tous convaincus, là, autour de la table, moi, à Lyon. Mais de 20 à 30, 35 ans, on est tous convaincus. Les politiques qui sont au-dessus... Le premier problème de génération, c'est que tous les chefs de service, que ce soit à la SACEM, dans les cabinets ministériels, dans les commissions, de partout, tous ceux qui ont les manettes, ils n'ont pas notre âge, quoi, et ils comprennent pas, ils n'ont pas percuté, à part quelques-uns qui sont un peu avant-gardistes ou ouverts d'esprit. Ouais.
Mais je pense qu'il y a aussi des circuits de financement et de l'argent qui tombent dans des poches d'amis, etc. Donc, je pense que...
D'ailleurs,
le problème de génération, il y a un problème d'intérêt.
Il y a le problème aussi, c'est que, ouais, effectivement, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont ouverts d'esprit malgré tout, et qui commencent à essayer de réinventer le libre à la sauce libérale.
Parlerons-nous de Jamendo.
Comment ?
Est-ce que tu allais parler de Jamendo ?
Pas que de Jamendo, mais il y a des listes de gens qui se mettent ensemble. Bon, derrière, ça me fait un petit peu peur, quoi.
D'accord. Moi, je vous propose qu'on écoute un nouveau morceau. C'est François, je ne l'ai pas nommé, mais c'est François La Technique aujourd'hui qui est venu me dépanner et qui va nous mettre un morceau. On se retrouve après et là, on va parler du film pour de bon. Donc Symbiose sur Radio Libertaire, on est de retour et maintenant on va parler du film, donc Varsovie Express. En deux mots.
en deux mots, un peu plus long je crois.
Oui.
En fait, Varsovie Express, ce sera le premier long métrage français collaboratif sous licence film. Donc pour cela, il a un site internet, en fait, www.varsovie-express.com, dans lequel, en fait, on donne, en fait, en toute transparence, toutes les phases de la production du film. Donc, à travers cela, les artistes, compositeurs et musiciens peuvent proposer des morceaux. Les dessinateurs, etc., peuvent proposer des storyboards en fonction du scénario, parce que le scénario est disponible en toute transparence, en fait.
Comme le scénario, lui, n'est pas ouvert à la modification.
Il est ouvert aux suggestions.
Aux suggestions
ouais. Donc aux modifications par l'auteur, dirais-je.
Et les dessinateurs pour les storyboards ou proposer même en fait des œuvres plastiques comme des tableaux, des peintures, des sculptures pour insérer dans le décor du film. Mm-hmm. Et plein d'autres choses, comme participer en tant que figurant au film, être donateur au film. Et pour revenir aussi sur la musique, il sera possible bientôt de composer à plusieurs un morceau, quoi. Pas seulement proposer son morceau, mais composer avec d'autres artistes sur Internet un morceau.
D'accord. Et je sais pas si vous connaissez Moncu Prod.
Si.
Voilà, qui font ce qu'ils appellent des orgies comme ça, où ils se mettent à plusieurs pour composer des morceaux. Et ils étaient venus ici, c'est très sympa.
Bah, c'est ça le délire. Ce sera une interface où, par exemple, le mec il propose une ligne de basse et il y en a un autre qui arrive et qui a enregistré son violon chez lui et qui va le rajouter sur le morceau. Et donc l'outil sur Internet mixe les enregistrements.
Et on a également mis sur Internet le casting, en fait, toute transparence. On a fait un casting sur Lyon en janvier et sur Paris en juillet, en fait. Et les meilleures propositions, on les a mis en vidéo sur le site, en fait, pour que, en fait, tout soit transparent, que eux nous proposent nos morceaux, mais qu'en échange, nous, on leur donne tout pour qu'ils collaborent avec nous, quoi.
D'accord. Alors du coup, ça s'adresse plus à des gens qui voudraient participer à la réalisation du film qu'au tout venant. C'est-à-dire que moi, si je regarderai votre film une fois qu'il sera fini, mais je ne vais pas lire le scénar avant, parce que sinon...
Ça dépend. Je pense qu'on peut venir sur le site en étant plusieurs catégories de personnes. Soit tu es un artiste, dans ce cas-là, tu peux intervenir sur la bande originale, etc. Donc là, tu peux faire ça sur le site. Soit ce projet il branche bien, etc. Et t'as un peu de thunes, donc tu te pointes sur le site et tu fais un don et donc t'es inscrit comme donateur sur le truc, tu auras ton nom générique et tu reçois un DVD avant tout le monde. Ou alors t'es une groupie et dans ce cas-là tu dis waouh, c'est génial, là, on parle du film bien plus qu'on en parle pour n'importe quel autre film dans Ciné Live. Et je regarde le casting, je fais mes commentaires sur les comédiennes et tout ça. Voilà. Donc il y a trois.
D'accord. Toi Didier, par rapport à la musique et à ce système de création collective, en tant que musicien, t'en penses quoi ?
Ah ben moi je trouve ça vraiment génial. Hein. C'est génial parce que on a tout de suite déjà travaillé avec mélanger deux façons de créer et en faire quelque chose de nouveau, d'autre chose. C'est un peu de soi qu'on donne. Et c'est une façon de se redécouvrir en mélangeant le travail avec d'autres. Donc, moi, par exemple, là, tout à l'heure, on parlait de court-métrage, c'est Elephant Dream, comment ça s'appelle, le court-métrage libre? Je sais
plus. Oui, c'est ça, c'est Elephant Dream,
qui s'appelle aussi The Urban Tale. Moi, je trouve ça génial. Par exemple, pour la BO, le réalisateur a décidé de partir d'un thème de piano d'un gars qui s'appelle Emma, qui est belge, donc un simple morceau de piano, et ensuite il a demandé à plein d'autres artistes de décliner avec ce qu'ils aiment, quoi, ce thème-là. Et il a créé toute la BO du film. Moi je trouve ça absolument génial, parce que on arrive, on prend une mélodie existante, c'est un peu un travail de comme si on interprétait au départ, mais en même temps on conçoit. Et puis à la fin, on mélange ça dans une œuvre plus globale. Et à la fin, ça réunit plein de gens pour découvrir l'œuvre. Et simplement, ça, c'est une histoire fabuleuse.
D'accord. Alors, dans les discussions qu'on avait eues, notamment, on a fait une émission sur les licences libres, etc. On avait évoqué un peu la figure de l'artiste, maître absolu sur son œuvre et ce genre de choses. Là, du coup, dans la démarche que vous avez, que ce soit pour le film ou pour la musique, on bat en brèche un petit peu ce truc-là. Alors est-ce que votre âme d'artiste ne se sent pas dépossédée de quelque chose?
Non, pas du tout, parce que bien sûr on a mis cette démarche en route, mais on n'écarte pas du tout le fait qu'en fait qu'on soit directeur artistique en fait et qu'on aiguille les compositeurs, qu'on leur dise que c'est pas mal, c'est mauvais ou c'est très bien, quoi. Mais on les aiguille en fait sur des séquences. Là, je voudrais un truc rythmé ou n'importe quoi. Et en fait, au bout, je pense que on en sera très satisfait, quoi. C'est vraiment de la collaboration, mais on garde quand même la main sur la main sur le film en choisissant les morceaux, en sélectionnant les morceaux qu'on va mettre dans la bande originale.
Mmh. Par rapport au scénario, que, oui, vas-y Didier.
Ouais, je pensais que aussi ça dépend le tempérament de l'artiste. Hein. Il y a des gens qui font de la musique peut-être pour dire qu'ils existent et voilà. Il y en a d'autres qui le font pour partager des moments avec d'autres. Partager dans une œuvre collaborative comme celle-là, c'est pas tout le monde qui voudra le faire. Et pourquoi pas, hein, faut tout pour faire un monde. Il n'y a pas de reproche à faire à celui qui veut pas partager tout ça, mais voilà quoi.
D'accord. Et donc par rapport au scénario, donc tu disais ouvert aux suggestions, donc.
En fait, le scénario, oui, il est sous une licence libre aussi qui permet de le modifier, mais il est ouvert aux suggestions pour des modifications qui interviendront avant le tournage du film. Mmh. Quoi. Donc, on publie une scène du scénario tous les deux jours quoi, sur le site. Et à l'issue de quoi, les internautes peuvent poster des commentaires. Mmh. Dire je sais pas, celle-ci je la trouve pas terrible, enfin je la verrais plus organisée de cette manière là cette scène là etc. Et donc là on y réfléchit quoi, c'est ce qu'on disait, enfin nous on propose que les internautes participent au film de manière concrète en proposant un morceau sur bande originale etc, mais aussi en donnant par expertise de manière générale quoi, que ce soit sur le scénario, sur d'autres trucs, sur des conseils autres.
Et donc le film proprement dit, donc l'histoire, etc. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Enfin, c'est pas secret puisque on peut avoir le scénario sur le.
Non, c'est pas du tout secret. Hein.
Ouais.
Eh ben, c'est une tragédie contemporaine, si on veut. En fait, c'est un mec, un jeune auteur qui raté, disons, de notre âge à peu près, qui part à Varsovie, qui habite à Paris et qui part à Varsovie sur un coup de tête. Et qui dans le train va rencontrer une comédienne dont il va tomber follement amoureux et puis une autre il y a des interactions plutôt étranges avec une autre comédienne et sur un fond d'ambiance de casting et de théâtre à Varsovie il y a des meurtres parce que et c'est ce mec-là qui tue certaines filles pour une raison qui va essayer de décrypter avec le Marquis de Sade et au travers d'entretiens avec Antonin Artaud et j'essaie d'être le plus flou possible parce que c'est le but du scénario et ça va se terminer de retour à Paris sur une queue de poisson.
Pourquoi Varsovie?
Alors pourquoi? Parce que en fait la question c'est pourquoi Paris et Varsovie.
D'accord.
Parce que ça part d'une lettre d'Antonin Artaud qui s'appelle Paris-Varsovie et qui est très, enfin moi qui m'a beaucoup percuté et donc qui a inspiré une partie du scénario.
D'accord.
Qui est une lettre de 2 pages, hein, c'est très court mais. Voilà. Et puis, parce qu'il fallait ces 2 capitales aussi, mais je pense que pour Artaud, c'était la même chose qu'il voulait toucher, quoi, ces 2 grandes capitales européennes, avec une histoire un peu chargée derrière, quoi, pour chacune d'elles, je pense. Il y a un truc, quoi.
Et en fait, dans ce film aussi, on veut faire valoir tous les arts, quoi, parce que le cinéma, c'est quand même quelque chose qui rassemble une multitude d'arts, quoi. Donc c'est pour ça que dans le film, il y aura du théâtre également. Bon, filmé, bien sûr, mais il y aura du théâtre, de la danse, etc. Et que ça reste dans ce milieu, quoi. Et en fait, c'est dans le film, mais c'est aussi à l'extérieur, quoi. Parce que, je veux dire, sur Internet, la pré-production, tout ce qui est musique et tout ça, c'est exactement la même chose, quoi. On fait valoir la musique, mais aussi, par exemple, on fait valoir les storyboarders. Ce qui n'arrive jamais, quoi, ou très peu souvent. J'ai vu quelques planches de Matrix ou quoi que ce soit, quoi. Mais faire valoir un storyboarder, c'est quelque chose qui est peu visible, qui n'est jamais visible dans un film, alors que c'est un art à part entière, quoi. Et je trouve que c'est important.
Mmh. C'est vrai qu'il y a des tas de spécialités, enfin, l'éclairage ou ce genre de choses, ou le costume, ou ce sont des trucs...
Ouais. Et...
Enfin, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission, c'est, on a, autant dans un film libre, on a accès à la musique très facilement, parce que on peut trouver les artistes sur Internet, sur le site du film souvent, etc. Autant là, on va essayer de d'éclater ça au maximum encore sur d'autres plans, les storyboards, etc. Tout, enfin, le but, c'est que tout le monde doit avoir accès à tout quoi, sur ce film. Quoi. Et on parle aussi de où on en est au niveau des financements. Enfin, si on veut que les internautes donnent de leur temps et de leur talent dans la conception du film, je pense que c'est important que nous, on soit tout à fait transparents. Donc, c'est un mot qu'on répète souvent, mais c'est le minimum qu'on puisse leur donner. Quoi. Sur qu'est-ce qu'on va en faire de ce film, ça va donner quoi, ça sera fait comment, avec qui, tout ça.
D'accord. Donc vous visez le commencer, enfin vous avez un planning prévisionnel.
C'est déjà commencé.
Oui, mais je sais que vous en êtes à l'état du financement.
Oui.
Vous pensez boucler ça dans un délai particulier ou est-ce que vous avez une idée déjà de...
Le tournage s'effectuerait en automne 2008, l'an prochain quoi. Donc ça nous laisse un certain temps pour trouver les sous, organiser la production, etc. Et que l'effervescence se fasse aussi sur Internet, quoi. Moi, je dois dire que pour l'instant, c'est un peu... Pour les compositeurs, les storyboarders, etc., c'est un peu difficile de proposer des morceaux parce qu'ils ont, pour l'instant, que le scénario, ils n'ont pas la durée des scènes. En fait, ils n'ont pas encore le découpage technique, en fait. Mm-hmm. C'est le découpage de tous les plans dans une scène, etc. Mais je pense que dès qu'ils auront ça, ils pourront se lâcher, il y aura des storyboards qui seront faits. Et du coup, avec les storyboards, les compositeurs... pourront aussi s'inspirer de ça, etc. Quoi. Donc,
Je pense que dans le film, il faut pas que les gens qui veulent contribuer au film, par exemple pour la musique, il faut pas qu'ils attendent. Avec deux bribes d'informations, un petit peu au feeling comme ça, ils peuvent se lancer dans quelque chose. Ça peut carrément aussi vous pousser vous à aller dans un certain sens plutôt qu'un autre. Et ils vont complètement participer à la patte de la réalisation, quoi. Donc c'est, je pense qu'il ne faut pas qu'ils attendent quoi, de contribuer, au contraire. Au contraire, au contraire.
Et toi, Didier, par rapport à ce projet, est-ce que tu as déjà fait de musique pour un film ou pour quelque chose,
Alors, un spectacle, là, par exemple, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis en plein enregistrement avec Delgarma. Voilà, j'ai trop de travail pour l'instant sur Delgarma. Mm-hmm. Mais je me suis déjà inscrit sur le site... Je regarde de temps en temps ce qui s'y passe. J'ai des idées comme ça, mais j'ai encore rien mis sur la plateforme, tout simplement parce que une chose après l'autre. Un album, c'est déjà assez conséquent à faire, donc voilà. Mais ça devrait arriver à point très bientôt. Donc on va se lancer là-dedans après.
D'accord. Est-ce que tu as cette perspective avec un intérêt certain ou c'est quelque chose de stimulant pour toi?
De participer à un projet comme Varsovie Express, ouais. Je pense que c'est complètement stimulant, oui, bien sûr. Parce que, je veux dire, moi je ne suis pas en manque de projets artistiques, et j'ai plusieurs raisons de le faire. C'est déjà parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses, et c'est pas tout le monde, des gens qui en font moins. Moi j'aime bien faire plein de choses, donc je suis toujours actif. C'est un projet qui est pour moi complètement avant-gardiste et citoyen, alors ça me plaît. Ralamax Prod, c'est des gens que j'affectionne tout particulièrement, donc j'y vais aussi sans problème, j'en reprends même. Et donc voilà, il faut simplement que j'ai un petit peu de temps pour m'y mettre. Donc je suis très enthousiaste à voir tout ça, puis j'en parle aussi beaucoup... autour de moi, et il y a peut-être quelques gens qui sont inscrits sur le site, à la petite promotion que j'ai pu faire de cette plateforme Varsovie Express. Voilà.
D'accord.
Mais Didier est beaucoup pris à beaucoup de projets et tout, et en plus il gère Dogmazic et tout ça.
Ouais, mais... non, mais bien sûr, mais c'est, je pense que aujourd'hui, si on parle de la musique, parce que voilà, on parle création. Je m'occupe de tous les arrangements de l'album. Alors, donc là, déjà, si vous voulez, c'est pas tellement du temps, c'est pas du temps matériel qui manque, c'est du temps dans la tête. C'est que quand vous avez un projet dans la tête comme un album,
ouais.
Ouais, vous êtes sur une autre énergie.
Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Je pense que ta question, c'était aussi en quoi ça peut susciter l'intérêt d'un artiste de participer au film. Moi, je pense que il y a un certain nombre d'artistes de musique qui font de la musique libre, qui se sont retrouvés en ayant fait le choix du libre dans la bande originale de plusieurs films, quoi, pas seulement les nôtres. Et là, de participer à la bande originale d'un film, d'un long métrage, c'est quand même quelque chose qui est super réservé à des gens qui ont des réseaux, des connaissances, etc. Donc là, le fait qu'on distribue. Tout à l'heure, on disait que le fait de distribuer un film librement sur Internet, c'est quelque part une démocratisation de l'accès à la culture et là au cinéma. Et je pense que ça s'inscrit dans la continuité et ça démocratise l'accès à la culture, mais avant. En pré-production, sur la création du délire.
D'accord.
Mais c'est sûr que c'est vrai que ça permet effectivement de mettre sa patte sur un autre support, une autre forme de culture qu'est là le cinéma. Hein. Donc c'est sûr que quand on avait été utilisé dans le Bal des Innocents, je crois que c'était ça qui était très intéressant, c'est que quand on fait des projections d'un film, les gens, c'est ni un concert, ni une musique chez eux qu'ils écoutent. Ils sont dans un autre cadre. Ils vont voir autre chose. Ils sont dans le cinéma. C'est pas pareil. C'est de la culture, oui, mais ils sont dans une autre dimension. Et en même temps, vous avez des images qui viennent accompagner la musique ou la musique qui vient accompagner les images. Ça dépend dans quel sens on voit les choses. Et donc, du coup, ça étoffe votre travail artistique d'une autre manière, quoi. Après, bon, c'est sûr, peut-être Varsovie Express passera à Cannes et Delgarma serait mondialement connu.
Ça serait pour bientôt.
Mais je pense pas que ça soit vraiment la chose de base. En tout cas, vu les tempéraments de Delgarma et surtout du mien, c'est pas tellement ça qui me motive.
D'accord. Voilà. Le film, donc, qui est-ce qui le réalise?
C'est moi.
Oui. Enguerrand.
Oui. Ouais.
Et alors, je sais pas, est-ce que tu peux. La façon dont tu vois les choses, je suppose que tu as réalisé des courts-métrages avant.
Oui, courts-métrages, documentaires aussi, touche un peu à tout. Disons que là, on est dans quelque chose de très contemporain pour ce qui est le scénario, la façon de faire le film, quoi. Donc, au niveau de la réalisation et de l'aspect artistique, je vais aussi rester dans la même chose, quoi. Ce sera... beaucoup d'ambiance très contrastée, parfois saturée, des flous, beaucoup de flous, etc. Un aspect qui frise parfois avec la science-fiction, quoi, et des séquences pour la musique, quoi, qui plutôt clip et tout, très rythmé, avec un montage très rapide, quoi. Me laisse, disons, un large choix, quoi. Donc, un petit blanc.
Oui.
Tout ce qu'on a déjà fait, un truc de notre génération, mais quand même plus grand public que ce qui a déjà été fait, quoi, parce que c'est aussi une vertu commerciale et tout derrière, mais avec cette histoire-là, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose. Donc.
Puis on tourne en numérique aussi.
En numérique et HD, quoi, donc vraiment nouvelle technologie.
Ça ouvre la possibilité de distordre l'image, vraiment.
Vous avez quelqu'un, vous avez fait 3D, ce genre de choses, dans votre équipe.
Oui, alors, la Crimosa Industries, qui a
Ah bah d'ailleurs, on pourrait en parler parce que il bosse en ce moment sur un film qui s'appelle The Urban Tale, et qui est un film où il hybride d'œuvres sous licence art libre. C'est-à-dire qu'il a pris plein d'œuvres sous licence art libre et il les met dans le film, par exemple.
D'accord.
Bah, par exemple, c'est un peu égocentrique puisque je vais parler d'un de mes films, mais il y a la fille de son. Le personnage de son film passe devant une vitrine de magasin où il y a une télé où il y aura un extrait d'un film dedans, etc. Donc c'est un film en 3D où il compose la bande originale en collaboration avec un certain nombre d'artistes, un peu de la même manière que Varsovie Express, quoi. Donc finalement, quelque part, c'est un peu le premier film collaboratif libre, quoi. C'est un court-métrage qui est pas fini parce que la 3D c'est long. Et voilà.
D'accord.
Donc c'est un peu sur cette idée-là qu'on a construit Varsovie Express.
D'accord. Et toi, dans Varsovie Express, quel est ton rôle, Joseph?
Alors moi, j'ai écrit le scénario et je joue dedans.
D'accord.
Voilà.
Et tu sais qui tu vas jouer?
Ouais, mais j'ai pas le droit de le dire encore.
Ah d'accord, ça c'est pas OK. Alors je vais mystifier, tout n'est pas transparent.
on va faire un communiqué sur le casting en septembre. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des filles qui ont passé le casting, voilà, et qui attendent la réponse des trucs, des résultats, quoi. Et sans doute qu'il y en a qui écoutent votre radio, alors je voudrais pas.
D'accord.
Quelle est la réponse avant tout le monde, ce serait dommage.
D'accord. Très bien. Ok. Je sais pas, on arrive à la fin, donc je sais pas si vous avez quelque chose à dire. On peut déjà rappeler l'adresse du site.
Ah oui, ce serait pas mal. Un petit peu de publicité. pour l'adresse de la prod, c'est www.ralamax.net, ralamax.net. Ensuite, il y a le site officiel du film, Varsovie Express, donc www.varsovie, comme la ville, -express.com. Et il y a plein de sous-domaines, mais de toute façon, tous les liens sont disponibles sur Alamex.
Ok. Joseph.
Ouais, moi je voulais vous remercier de l'invitation. Parce que...
c'est moi qui vous remercie d'être venu.
Non, c'est vrai, parce que c'est, franchement, on a déjà fait. Enfin, moi j'ai déjà fait un passage radio d'un quart d'heure coupé par la publicité au milieu. On n'a pas le temps de développer grand-chose. Là, une heure et demie, c'est génial.
Ouais.
Bah en tout cas, moi je suis preneur d'avoir des nouvelles du développement du film et du projet, etc. à l'avenir. Hein,
aucun problème.
Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, merci Didier aussi. Désolé de ne pas pouvoir avoir raté le passage de la musique.
Ah ouais, non, mais pas de souci. On vous fera la primeur de mettre le prochain album
sur votre. Ouais, on se rattrapera.
On fera ça en premier.
Ok.
Voilà.
Bon, bah, merci.
Si vous voulez télécharger des milliards de musiques, vous allez sur dogmasic.net. Et c'est gratos et il y a des choses trop bien.
Voilà. Je le confirme. Dogmasic, hein, dog comme un chien, et masic, M-A-Z-I-K. Donc c'est.
Zadic.
Ah oui, ok, j'ai tout fait. Ok. Voilà, bon, bah, on va finir en musique. Merci à François pour la technique. Et au mois prochain.
Ouais, ciao, à la max.
Salut, merci Didier.